les lycéens des Hauts-de-France au printemps de Bourges.
Bonjour Aurélie, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Avec plaisir, bonjour. Alors je suis Aurélie Thuot et je dirige une entreprise d'organisation de concerts et de tournées qui s'appelle Adon Productions. J'en suis la directrice et ce depuis 25 ans cette année.
En quoi consiste concrètement le rôle de tourneuse dans le spectacle du vivant ?
Alors du coup, effectivement, j'ai commencé en disant que j'étais donc productrice de spectacle, directrice d'une entreprise de production de spectacle qui inclut cette partie de tournée. Communément dans les musiques actuelles, c'est vrai qu'on a tendance à dire que les entreprises qui s'occupent de produire des spectacles et de faire en sorte qu'ils soient diffusés sur le territoire, donc ce principe de... J'ai un spectacle entre les mains où je travaille avec des artistes et ils nous mandatent avec notre entreprise pour aller leur trouver des concerts dans différents endroits. Alors qu'on réfléchit en fonction de la typologie aussi des artistes et des spectacles. On ne va pas vendre un spectacle de chansons dans la même salle qu'un concert de musique du monde parfois ou de hip-hop. Donc on réfléchit d'abord au type d'artistes avec lesquels on va travailler, les spectacles qui vont monter, le type de concert. Et après, il y a des personnes dans nos sociétés qu'on appelle souvent des bookers ou des bookeuses. En français, c'est des tourneurs ou des chargés de diffusion, le fait de diffuser sur un territoire un spectacle. Et ces personnes-là, elles s'occupent de cibler, de chercher en fait quelles vont être les salles, les festivals, les événements gratuits ou en tout cas tous les endroits où ce spectacle-là, où cet artiste-là pourrait se produire. Et donc les bookers et les bookeuses, c'est un peu les commerciaux qui vont vendre les spectacles à des salles ou à des festivals. Donc le métier de tourneur, en fait, il y a vraiment la partie création et investissement sur la création. Donc on travaille avec des artistes qui vont avoir besoin de répéter avant de tourner dans différentes salles. Donc il y a tout un temps où il y a une notion d'investissement, parce que quand ils répètent, ils sont payés. S'ils ont besoin de travailler le son ou la lumière, il faut parfois acheter du matériel ou en louer. Il faut aussi payer les personnes qui répètent avec elles et eux. Une fois qu'on se dit que c'est prêt, on fait tourner. Donc c'est le principe de produire et ensuite avec notre petit produit fini, si tant est qu'on puisse appeler... l'artistique un produit, mais on fait tourner. Voilà, on diffuse, alors ça peut être sur le territoire national, mais ça peut être aussi à l'international.
Avant de devenir directrice de votre entreprise, quel a été votre parcours ?
Alors, j'ai d'abord commencé par un cursus en sociologie. J'ai donc une licence en sociologie. Ensuite, j'ai bifurqué vers un cursus qui s'appelle conception et mise en œuvre de projets culturels. J'avais dans l'idée de travailler dans l'organisation de spectacles, au départ de festivals, sans trop savoir ce que ça voulait dire en fait. Et puis au fur et à mesure, il se trouve que dans le cadre de mes études, j'ai commencé à travailler dans une compagnie de théâtre. Donc j'y ai travaillé comme assistante administrative pendant 2 ans et demi. Et en parallèle de ça, j'ai découvert un lieu de concert à Paris qui s'appelle le Bateau et la Lamaïne, qui propose plein de concerts de groupes, beaucoup de la scène française à l'époque. Et j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Oldelaf, qui fait de la chanson drôle, tout ça. Et on a commencé à travailler ensemble de manière un peu artisanale. Moi, je savais pas exactement... Enfin, je me suis dit, j'ai envie d'accompagner ce projet-là, etc. Et puis, il y avait des besoins, j'ai essayé d'y répondre. Alors, j'ai commencé par faire un peu attaché de presse, chercher des médias qui pourraient avoir envie de faire des interviews ou de venir... parler de l'artiste ou passer la musique à l'antenne. Et puis après, ça s'est transformé où j'ai commencé justement à prendre mon téléphone et à appeler des lieux pour trouver des concerts.
La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton père est suisse allemand. Quand un copain t'appelle pour son déménagement. Et ça fait mal.
Et puis cette rencontre avec Old Olaf, ça m'a aussi permis de rencontrer un groupe qui s'appelle les Fatal Picards. Donc, qui est le groupe avec lequel je travaille depuis le plus longtemps aujourd'hui, parce que je travaille toujours avec eux. Et on a, du coup, de manière commune, décidé de créer une structure qui allait permettre de pouvoir porter toute l'activité et d'Old Olaf et des Fatal Picards. Donc, toute l'activité, ça voulait dire pouvoir être en capacité de gérer la production de leurs albums. Donc là, c'était vraiment le côté musique enregistrée. Et puis de pouvoir gérer toute la production de leurs concerts. Et donc, production et tournée des concerts. Et donc, j'avais à l'époque 24 ans. Et donc, c'est hyper chouette de se dire que pendant toutes ces 25 ans, il y a déjà des artistes avec lesquels je travaille toujours. Donc, on s'est co-construit finalement. Eux, leur carrière a évolué, la mienne a évolué. Donc, je me suis formée aussi au fur et à mesure aux spécificités des musiques actuelles. Je suis allée dans certains centres de formation. Dès chaque fois qu'il y avait un nouveau besoin, on se disait OK, donc là, il faut faire ça, je ne sais pas faire, je vais creuser. Et puis, au bout d'un moment, tu rencontres des gens qui font le même métier. Et puis tu leur poses des questions. Enfin, voilà, je ne sais plus quelle était la question de début, parce que je me suis. À mon parcours, donc en fait, très vite, j'ai pas su que j'étais directrice de la structure. J'avais les ressources pour créer une structure et pour pouvoir l'administrer. Donc au départ, effectivement, c'était quand même plutôt la promotion, attaché de presse, booking et puis tout l'administratif. Moi, j'ai un gros bagage administratif, donc ça veut dire, en fait, quand on vend une date, il faut signer un contrat avec les organisateurs et Tris. Ce contrat-là, ça s'appelle un contrat de cession. Donc on cède le droit de représentation d'un spectacle pour un temps donné, donc on le vend. On signe ces contrats, on fait des factures. Et puis surtout, il y a un truc qui est très important dans le spectacle, c'est que tous les artistes et tous les techniciens, techniciennes, il faut qu'ils soient rémunérés pour le travail qu'ils font, comme n'importe qui quand ils travaillent. Et donc il y a une paye un peu spécifique qui s'appelle la paye intermittente. Et donc, je me suis formée à la paye pour les intermittents et les intermittentes du spectacle. Et donc, aujourd'hui, comme je suis un peu experte et que j'adore toujours faire ça, c'est moi qui continue à le faire. Et il m'arrive aussi, du coup, de donner des formations autour de l'administration du spectacle et la paye dans le spectacle.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans la culture ?
Eh bien, comme je disais tout à l'heure, j'avais très envie de m'orienter vers l'organisation de festivals. J'imaginais travailler sur des festivals un peu pluridisciplinaires et tout ça. Il se trouve que j'ai des parents qui travaillaient dans le cinéma, donc j'avais déjà une petite connaissance, en tout cas du milieu cinéma et audiovisuel. J'ai grandi à Paris, dans un quartier aussi où il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans les métiers de la culture. Et mes parents m'ont emmené très tôt voir des expositions, voir des spectacles. Et ça a toujours été quand même un environnement qui me plaisait. Et après, c'est vraiment quand même les rencontres avec les artistes que j'ai fait qui ont orienté après ma carrière. Moi, j'avais pas imaginé à 20 ans ou 24 ans que j'allais travailler dans le secteur des musiques actuelles. Mais en tout cas, j'ai quand même toujours eu cette appétence. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est proposition artistique en tout genre. Je trouve que cette transmission, elle est hyper importante. Et que ça... Juste, en fait, aussi de savoir que tu vas faire plaisir à des gens qui vont venir... vivre la musique, parce que c'est en plus la musique, il y a quand même c'est un vecteur de bonheur ou une transmission d'émotions et que de pouvoir faire ça avec, avec tous les publics, que ce soit des gros ou des plus petits publics. C'est quelque chose qui, moi, m'anime beaucoup.
Donc, du coup, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui me passionne le plus ? La paye intermittente. Non. J'adore rencontrer de nouveaux et de nouvelles artistes, réfléchir avec elles et eux à des stratégies de développement de leurs projets. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi de pouvoir être la personne ou la structure pivot entre justement des organisateurs et des organisatrices de spectacles et des artistes, faire le lien, faire la connexion, œuvrer dans l'ombre, parce que moi, j'ai jamais eu de velléité d'être sur scène. C'est vraiment une vraie envie, et c'est pas par défaut que je suis dans l'ombre des spectacles. Et ouais, j'aime vraiment ce principe de faire en sorte que tout soit coordonné au mieux pour que les organisateurs et actrices qui font venir les spectacles aient toutes les informations pour que ça se passe bien, et que les équipes artistiques et techniques, quand elles se déplacent, n'aient pas à se poser la question de savoir si tout est calé. En fait, nous, on œuvre là bien en amont, et pour que tout se passe au mieux. Et c'est un peu ça aussi. Enfin, on participe un peu à la magie du spectacle, parce que s'il n'y a pas tous ces métiers-là au départ, d'administration, de régie, de préparation et tout ça, c'est quand même moins simple de monter sur scène.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre structure add-on ?
Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on l'a décidé collectivement avec les Fatal Picard et avec Oldolaf à l'époque, pour gérer leur carrière à ce moment-là, pour aider une structuration. Et vraiment, réellement, à l'époque, quand on a monté la structure et que j'ai commencé à travailler avec eux, j'avais pas conscience que j'allais avoir une trajectoire aussi longue. Cette notion d'évolution et de co-construction ensemble de nos carrières respectives, qui sont très complémentaires. Et en fait, à l'époque, quand on l'a fait, c'était que on était sur une typologie d'artistes qui avaient quand même déjà des intérêts. Enfin, ils recevaient des intérêts de la part d'organisateurs de spectacles, mais ils n'avaient pas de structure qui leur permette justement de pouvoir bien contractualiser, de pouvoir émettre les payes, de suivre leur carrière. Sauf qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Moi, j'avais une partie des compétences, et que du coup, ensemble, on s'est dit le bon moyen. D'autant plus que, comme je ne sais pas si vous connaissez leur travail, mais en fait, ils sont du coup entre la musique et l'humour. Et alors, il faut savoir que quand même, souvent, il y a un peu des couloirs, quoi. Parfois, on nous dit non, mais c'est pas vraiment de la musique, ou non, mais c'est pas vraiment de l'humour. Et donc, du coup, quand tu contactes des organisateurs qui programment des concerts, on nous dit non, mais c'est pas de la musique. Et quand tu contactes des organisateurs qui programment des comédies ou des one-man shows, je ne sais pas quoi, ils nous disent oui, mais bon, il y a de la musique, donc c'est pas vraiment chez nous que ça doit aller. Et donc ça s'est un peu démocratisé, ce truc d'avoir de l'humour un peu partout, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça fait du bien. Mais à l'époque, on avait pas mal de professionnels et du spectacle et de musique enregistrée qui nous disaient non, mais ça, vraiment, ça marchera jamais, ça nous intéresse pas du tout. Et donc, il y a eu vraiment une volonté d'avancer de manière indépendante et de se donner les moyens de construire les carrières en étant autonome, en ayant une structure qui puisse porter tout ça, quoi. Donc c'était l'enjeu, et je crois qu'on a bien réussi.
Avec combien d'artistes travaillez-vous actuellement, et comment choisissez-vous les projets que vous accompagnez ?
Alors, actuellement, au catalogue, on a une vingtaine d'artistes. Alors, le plus gros volet de l'activité, c'est du concert, avec de la musique actuelle, du rock, de la chanson, du rap, de la musique du monde. Et on a aussi un petit volet, justement, humoriste, comédien, comédienne, seul en scène. Et donc, chaque année, on a entre 15 et 20 artistes. J'ai oublié aussi de dire qu'on travaillait aussi avec du jeune public. Et l'autre question, c'est mais comment je choisis, comment je, vous allez devoir monter là, parce que je suis en train de divaguer. Comment je choisis les artistes? Et ben c'est assez variable, mais souvent quand même, c'est par l'intermédiaire de personnes qui vont me présenter de nouveaux projets en disant « Ah bah j'ai vu cet artiste-là sur scène et tu devrais t'y intéresser ». Donc ça peut être des artistes qui sont déjà chez nous, qui nous font parvenir de la musique ou qui nous disent « Ah bah va voir le concert de tel ou tel artiste », etc. Il y a aussi du coup les personnes qui s'occupent du booking. Dans la structure, on a 5 personnes qui travaillent à vendre les dates de spectacles et de concerts selon les typologies de spectacles. Donc selon si c'est du jeune public, si c'est de l'humour, si c'est du concert. Il y en a qui vont être plus spécialisés sur des réseaux très rock, d'autres qui vont être plus spécialisés sur des réseaux chansons. Donc on essaye de mutualiser les forces. Et donc ces personnes-là, pour le coup, comme elles sont, comme elles vendent des concerts, elles vont aussi beaucoup voir de spectacles. Ça leur arrive de découvrir des artistes sur des tremplins, sur des concerts. Et là aussi, comme c'est elles qui sont la force de vente, il faut qu'elles aient envie de défendre un projet. Moi, j'aime bien qu'il et elles me disent « j'ai découvert cet artiste et je pense que ça pourrait être intéressant pour rentrer dans le catalogue Adon ». Et on s'en parle. Donc, je ne suis pas seule à décider. Là, vraiment, il y a une envie et un besoin que toute l'équipe valide le choix des artistes. Mais voilà, la plupart du temps, c'est soit vraiment le réseau professionnel qui me présente des choses, soit via des tremplins. Et parfois aussi des artistes qui nous démarchent et on peut avoir des bonnes surprises.
Et tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez également au niveau international. Vous avez des exemples ?
Oui, alors on travaille peu à l'international, mais effectivement, il nous arrivait avant le Covid. Depuis le Covid, on voyage un peu moins. Et puis aussi parce qu'on réfléchit aussi beaucoup à la transition écologique et à l'environnement. Donc parfois, on peut avoir des propositions à l'étranger sur une date, ce qu'on appelle les one-shots, les dates isolées à l'étranger, où là, du coup, on se dit, est-ce que réellement, il faut déplacer toute une équipe en avion pour un seul concert, etc. Donc, on mène cette réflexion. Mais quoi qu'il en soit, comme on a beaucoup d'artistes qui travaillent autour de la francophonie, qui chantent en français, on a souvent travaillé avec le Canada. Il y a quand même des festivals et puis certains centres culturels qui font de la programmation. Nous avons aussi travaillé avec la Chine, qui finalement fait venir énormément d'artistes étrangers, dont français. Donc nous, à l'époque, c'était un des spectacles jeunes publics qui a vraiment tourné beaucoup, beaucoup. Et ils nous ont fait revenir plusieurs fois. Ils y sont allés parfois pendant 3 mois, parce qu'en fait, c'est quand même un territoire qui est très grand. Et donc, ils avaient plein d'enfants à qui ils voulaient montrer le spectacle. Et puis avec notre groupe Bonbon Vaudou, qui est dans une esthétique musique du monde et plutôt musique réunionnaise, et qui aime beaucoup faire des rencontres artistiques, travailler avec des artistes sur plein de territoires, eux du coup on vise le continent africain. Ils sont déjà parti là-bas. Là, on est en train de voir pour des concerts au Zimbabwe. Et puis après, on essaye justement de faire en sorte qu'ils puissent aller dans plusieurs pays pour justement pas partir que pour une ou quelques dates.
Vous avez parlé du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en voyez encore les impacts ?
Oui, on en voit encore les impacts. Alors, est-ce que c'est le Covid ou d'autres facteurs ? Tout ça vient se mêler, mais c'est vrai que le moment du Covid pour le spectacle vivant, ça a été vraiment un arrêt net. Il faut quand même rappeler que pendant quasiment un an et demi, certaines salles sont restées fermées et que ça, on a pu recommencer une activité au départ dans des salles assises avec des jauges séparées où les gens étaient un siège sur deux, etc. Donc il y a certains artistes pour lesquels ça c'était possible parce qu'ils étaient sur des sets un peu acoustiques, de petite envergure, etc. Mais toutes les salles de rock, par exemple, ou les salles de musique actuelles, ont pas rouvertes pendant un an et demi. Donc ça a été une gestion quand même des équipes, gérer les angoisses de tout le monde, etc. Et puis la reprise a quand même été... il y a tout un pan du spectacle qui a repris très fort, mais qui ne correspond pas forcément à des artistes soit indépendants, soit qui ne mobilisent pas des très 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 grosses jauges. Et puis finalement, le public s'est parfois désintéressé du spectacle vivant, soit parce que finalement ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire autre chose que d'aller voir des spectacles, mais surtout ça a été difficile de faire revenir les gens dans les salles parce qu'il y avait aussi la peur des contaminations, et puis que quand même effectivement pendant tout le temps du Covid il y a eu un peu cette espèce de message pas forcément volontaire, mais qui était de considérer que si on est trop proche les uns des autres, on peut se faire du mal en fait. Donc voilà, réouverture des salles compliquée dans les remplissages. Et aujourd'hui, on voit encore quand même la complexité de remplir des salles pour des artistes très émergents. Parce qu'il y a une curiosité du public qui s'est parfois un petit peu érodée. Et certaines salles n'ont pas forcément réussi à remobiliser leur public. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui font que tout ne va pas toujours très bien dans nos métiers. Il y a des budgets qui sont en baisse, des difficultés de remplissage, et que ça se répercute sur tous les maillons de la chaîne, donc forcément sur les structures de tournée et sur les artistes.
Que pensez-vous de la réduction croissante du budget pour la culture dans le budget de l'État, et quels sont les impacts dans votre métier ?
Ce sont des impacts assez directs. Alors nous, on a la chance de... notre structure, elle n'est pas subventionnée pour son fonctionnement. Donc on a quand même la chance de pouvoir mener notre activité avec ce qu'on appelle nos ressources propres, c'est-à-dire les ventes de nos spectacles, parce qu'on a aussi la chance d'avoir des artistes qui font des grosses tournées et qui nous permettent en fait d'avoir des recettes qui nous permettent de payer une partie de notre fonctionnement. Néanmoins, on a quand même, on fait régulièrement des demandes d'aide au projet. Et parmi ces demandes d'aide au projet, il y en a un certain nombre qui passent par de l'argent public. Et forcément, il y a un effet en chaîne. Les aides publiques, il y a effectivement moins de budget, donc on nous demande de faire des restrictions budgétaires, et ça a une incidence directe sur l'aide à la création, sur l'aide à la diffusion de spectacles qui sont parfois en émergence, en développement, ou parfois en continuité de carrière. Donc ça, le fait en fait déjà que nous, en tant que producteurs et tristes qu'accompagnons des projets émergents, d'avoir moins d'aide, ça induit qu'on va travailler avec moins d'artistes, ou qu'on va avoir des capacités d'investissement beaucoup plus réduites. Ça implique aussi que les lieux de diffusion, les salles et les festivals, qui eux aussi en fait voient leur budget diminuer, programment moins ou programment des artistes tête d'affiche qui vont leur permettre de faire des gros remplissages. Et puis les salles en fait vont aussi négocier parfois des prix de vente beaucoup plus bas que ce qu'on nous on aurait besoin de vendre. Donc tout ça a une incidence c'est ce que je disais, sur tous les maillons de la chaîne. Et ce qui est paradoxal, c'est que il y a plein de messages qui disent le spectacle vivant c'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de billetteries vendues, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en gros les très grosses jauges, et d'ailleurs au Printemps de Bourges il y a des très grosses jauges qui sont pleines, etc., parce que c'est un festival qui est ultra identifié, avec un public là pour le coup qui se déplace, et aussi parce qu'il y a une programmation, il y a de l'émergence, parce qu'on a les Inouïs par exemple qui permettent vraiment la découverte, mais il y a aussi quand même des grosses têtes d'affiche qui effectivement, qui attire beaucoup le public. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est ça aussi qui a généré le Covid, c'est que quelque part, les plus petits lieux, entre guillemets, qui vont être entre 500 et 1200 places, galèrent plus à remplir ou à avoir certaines têtes d'affiche chez elles, parce que il y a certaines structures qui vont être dans des logiques de production où elles vont passer sur des très gros jauges, donc type les arénas ou certains gros zéniths, où en fait c'est du coup là on n'est plus dans une logique où on vend le spectacle, on est dans une logique où on produit, et donc là du coup c'est les boîtes de production qui font ça, en fait c'est elles qui mettent en vente la billetterie et qui l'encaissent, et souvent ce sont des prix de place qui sont beaucoup plus chers qu'avant. Et donc, et puis, du coup, comme c'est des très grosses jauges, une fois que le public est allé à cet endroit-là, il ne retourne pas forcément ailleurs, il ne va pas forcément découvrir autre chose. Donc, les artistes qu'on va appeler émergés, les très gros, oui, eux, ils vont polariser énormément le public. Et du coup, ils vont aussi parfois se dire si je t'achète une place dans l'année, ça va être celle-ci, parce que on valorise beaucoup le modèle là des gigantesques concerts qui deviennent quasiment des c'est du spectacle un peu événementialisé, quoi. Il y a des scénographies dingues, des lumières de dingue, et donc le public se déplace plus forcément. Il y a la musique, mais il y a aussi le show, quoi. Et que qu'on peut pas restituer dans des plus petits lieux. Et que ces artistes-là, oui, ils vont vendre des billets très vite, très cher et en très grande quantité. Mais tout l'autre volet, en fait, qui est quand même la majorité des artistes, ça va être parfois plus compliqué de réussir à remplir des salles, etc. Je ne sais plus quelle était la question. Ah oui, les budgets. Et c'est que du coup, les budgets sont en baisse. Et ça, pour le coup, ça polarise. Mais le fait aussi, voilà, qu'il y ait une forme de truc un peu concurrentiel, effectivement, des organisations de concerts dans des très grosses jauges versus des plus petites, ça vient aussi vachement impacter. Donc il y a les budgets de l'État, et puis il y a aussi la grosse partie émergée, c'est ce qu'on appelle la concentration. Et donc il y a certains gros qui polarisent, mais c'est ce qu'on observe aussi dans les médias, dans l'édition littéraire, etc.
Comment voyez-vous l'avenir du métier de tourneur ?
Oh là là, vaste question. Justement, si on ne veut pas que la tournée d'artistes s'arrête à louer une salle, mettre en vente de la billetterie, ne travailler qu'avec des artistes très bankable qui vont remplir des salles, il faut continuer à œuvrer. Et donc moi, je le fais à ma petite échelle, déjà en travaillant beaucoup avec des artistes émergents. Même si on a moins de budget et qu'on parfois on travaille avec moins, on continue à faire ça. Et je suis très engagée dans un syndicat d'employeurs qui s'appelle le Syndicat des musiques actuelles, le SMA, dont je suis la vice-présidente aujourd'hui. C'est un syndicat de filière qui regroupe tous les acteurs et les actrices de la filière musicale, donc les salles de spectacle, festivals, producteurs et productrices, mais aussi médias indépendants. La Ferra Rock fait partie des fédérations qui sont adhérentes au syndicat, qui va du coup représenter les acteurs et les actrices de la filière des musiques actuelles, mais qui sont dans une logique plutôt d'indépendance et de lucrativité limitée. Parce que très vite, quand on monte des sociétés, évidemment il faut faire du chiffre d'affaires pour payer son fonctionnement, et puis il y a des modèles où effectivement ça va permettre de reverser parfois de très gros dividendes aux gens qui gèrent la société, les associés, etc. En fait, dans le cadre des musiques actuelles, tous les gens qui sont adhérents à ce syndicat sont plutôt dans une logique non pas de non-lucrativité, puisque ça reste une activité économique, mais quand on parle de lucrativité limitée, c'est que du coup, si jamais on fait des bénéfices, ce qui n'arrive pas toujours, ces bénéfices sont redistribués à la suite du projet, donc des nouvelles créations ou de l'aide à l'émergence, etc. Ou en tout cas, les bénéfices ne vont pas directement dans les poches des des gérants ou de la gouvernance, etc. Et ça fait vraiment sens aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on est vraiment plein de... Je mets des gros guillemets en disant structure indépendante, parce qu'il y a plein de modèles économiques différents, mais en tout cas, de se dire qu'on travaille aussi à faire en sorte qu'on puisse toujours travailler avec de l'émergence, qu'on puisse toujours découvrir de nouveaux artistes. Et je pense que du coup, le métier de tourneur, si on n'arrive pas à lutter contre cette concentration, bah, ça va devenir plutôt un truc de booking, j'appelle une salle pour la louer et puis les artistes qui remplissent rempliront. Mais qu'il faut qu'on puisse continuer à pouvoir travailler de manière par rapport à la liberté de création, de diffusion. J'espère qu'on pourra toujours avoir effectivement le métier de tourneur aussi à cet endroit-là. Je pense que l'idée, c'est pas de faire une dichotomie et de se dire les gros c'est pas bien, les petits c'est bien. Pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on arrive à continuer à préserver cet écosystème pour continuer à avoir aussi un accès à la culture pour tous, des prix de billets qui soient accessibles pour toutes les personnes dans plein de situations différentes. Et qu'on puisse continuer à vraiment travailler sur l'émergence, la création, pouvoir accompagner ces projets-là et avoir quand même encore des budgets pour ça. Sinon, on risque d'avoir du coup une vraie uniformisation des propositions artistiques. Et ça, pour le coup, moi, ça m'intéresse vachement moins. Donc, j'œuvre pour que le métier de tourneur continue à pouvoir travailler avec l'émergence. Quoi.
Très bien, merci pour cette interview.
Bah, merci à vous, c'était un grand plaisir.
Ah, c'était la belle vie avant quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier avant centre et puis dresseur de chameau. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Hey Bernard Lavillier, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier, obstétricien, ah non, tu l'as fait en 80.